Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Si les anniversaires n'étaient pas là pour lui rappeler son âge, Jean-Louis Croquet ignorerait qu'il a 80 ans. Aujourd'hui vigneron dans le Var, hier patron de TNS Sofres, numéro 1 mondial des études de marché et des enquêtes d'opinion, cet entrepreneur, passé à ses débuts par la société Pernod, dont il a géré la fusion avec Ricard, reconnaît ne pas tenir en place. Comme c'est souvent le cas avec des personnalités de son envergure, Jean-Louis Croquet raconte avec simplicité son parcours exceptionnel, gardant pour lui la somme de travail nécessaire pour y parvenir. Il ne se plaint pas, car il aime travailler, créer, construire, partager ses ambitions et stimuler ceux qui l'entourent. Après avoir quitté TNS Sofres, il achète en 1998 le domaine Thuéry à Villecrosse dans le Var. Un changement de cap radical pour ceux qui ignorent qu'il a toujours rêvé d'être vigneron. Il a maintenant les moyens d'acquérir 400 hectares de vignobles, de changer de vie et de faire le vin qu'il aime dans ce coin de paradis. Dans cet entretien, Jean-Louis Croquet revient sur ses origines, son parcours, ses passions, sa famille, mais aussi la protection de l'environnement et la sécheresse, en pensant au monde dans lequel vivent et vivront ses enfants, petits-enfants et les générations futures. Il n'est pas rare que l'on vienne le consulter, tel un vieux sage, pour lui soumettre un projet ou une idée, car son avis compte et n'a pas pris une ride.
Jean-Louis Croquet, je suis né le 28 juin 1943 à Versailles. Pourquoi Versailles ? Parce que je suis d'une famille bretonne qui est plutôt originaire de Saint-Paul-de-Léon. Mais les Bretons avaient souvent une caractéristique, c'est que quand ils veulent monter à Paris pour aller vendre leurs choux-fleurs et leurs artichauts, surtout à l'époque, ils s'arrêtaient à Versailles parce que la capitale leur faisait un peu peur. Donc ma mère était venue chez sa mère, donc chez ma grand-mère, et habitait Versailles, un endroit merveilleux, puisque mon grand-père habitait à la porte Saint-Antoine. C'est la porte où on entre dans le château de Versailles. Donc j'avais la chance à Versailles, je suis arrivé là, j'ai commencé à naître dans le hameau de Marie-Antoinette. Ma mère se promenait dans le château. À 28 juin, alors après je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passait le 28 juin? C'était la guerre, est-ce qu'il y avait un bombardement? Non, il y avait une chaleur torride. Et elle ne se sentait pas bien, elle est allée dans la laiterie de Marie-Antoinette. Alors la laiterie, c'est la petite laiterie en marbre blanc qui est auprès du lac, du hameau de Marie-Antoinette, qui lui servait de fermette pour recevoir son amant, enfin ses amants en général. Pour l'histoire, ça, il vaut mieux aller voir Alain Baraton, le jardinier en chef du château, qui est un grand copain, qui lui vous racontera tout sur la vie sexuelle de Marie-Antoinette. Et donc, je suis né là, d'un grand-père qui a emmené ma mère à une clinique qui avait à l'époque une entrée dans le parc de Versailles. Donc, je suis né dans la nature. Un peu artificielle, la nature de Marie-Antoinette. Mais enfin, à l'époque, c'était déjà bien vert autour, avec un jardinier du château. Donc, je suis resté, et je me sens, mon village, c'est toujours Versailles. Parce qu'après, comme je suis resté à Versailles, j'ai fait mes études à Versailles, j'étais à l'école à Versailles. J'étais joueur de rugby à Versailles, j'étais président du Racing Club de Versailles. Et puis j'ai passé ma vie à Versailles. Puis le plus drôle, c'est qu'à la fin, et là je saute, mais je reviendrai après au départ, à la fin de ma vie, mais qu'est-ce que je dis? Je vais faire de mon dernier tiers de vie. Et j'avais deux possibilités qui me plaisaient. Soit devenir vigneron, qui était ma passion depuis très longtemps, soit devenir maire de Versailles. Et donc, c'était très différent. Pourquoi maire de Versailles? Parce que c'était un gros village, un esprit de village. Et puis là, j'avais une femme très, très raisonnable à qui j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, bah, dis-le-moi tout de suite, si tu choisis Versailles, je m'en vais tout de suite. Je pars. Bon, bah, ça va, alors c'est choisi, on va chercher un vignoble. Voilà. Et au milieu de tout ça, j'ai essayé de remplir ma vie en faisant toujours que les choses qui me plaisaient. Alors les choses qui m'ont beaucoup plu, c'est bien entendu le rugby. J'ai joué à Versailles, bien entendu c'était mon club. Mon club de cœur, c'est maintenant le Stade Français, puisque j'ai joué aussi au Stade Français, Paris. Incidemment, de l'achat d'un domaine ici, dans cette région, je suis devenu depuis quelque temps un supporter du RCT. Ça, c'était quasiment obligatoire. Et donc, après tous ces plaisirs-là, il y a un moment donné, j'ai fait mes études, pas brillantes, j'étais toujours premier en gymnastique. et en sciences naturelles, je me rappelle. Pour le reste, c'était moyen. J'ai fait des études. J'ai fait un doctorat de sciences économiques à la faculté d'Assas qui venait d'ouvrir à Paris. Je me rappelle parce qu'à l'ouverture, il y avait la bagarre entre les gauchos et les fachos. Je faisais partie des gauchos. On a perdu, a priori, puisque la fac d'Assas s'est plutôt tournée à droite. Enfin, maintenant, être socialo, c'est compliqué. On ne sait plus bien où on est. Mais j'ai gardé le cœur à gauche, quand même. J'ai gardé le cœur à gauche. Et donc, après, j'ai fait des études. Et puis, dans toutes ces études au lycée Hoche et après à la fac, j'ai découvert un truc qui m'a passionné. C'était l'informatique qui était naissante. J'ai passé un examen qu'on appelait à l'époque, j'ai jamais compris pourquoi, le C4 d'informatique appliquée. On apprenait à écrire des programmes informatiques avec les premiers ordinateurs. Mais j'ai toujours intuitivement senti que ce qui allait se passer dans ce domaine informatique allait complètement révolutionner notre vie. C'est comme après, le deuxième paramètre, c'est effectivement ce qui va révolutionner, ce qui révolutionne notre vie, c'est depuis une quinzaine d'années, avant que je décroche de ce milieu informatique, c'était l'intelligence artificielle. Donc si vous ajoutez bout à bout le vin, le rugby, ça c'est sympa, l'intelligence artificielle et, phénomène majeur aujourd'hui, la crise climatique, ça c'est déjà beaucoup moins sympa. Parce que ça devient très compliqué, très complexe, et ça vous change tout. Donc à partir de ce moment-là, la vie a cessé d'être pépère. On n'a pas une vie tranquille, on n'est pas venu là sur Terre pour être content, pour contempler. En fait, on est venu, pour l'instant, on est venu, faut essayer de sauver l'essentiel et de rendre cette Terre beaucoup plus vivable que ce qu'elle n'est devenue, en fait. Donc, ma dernière partie de vie, et j'y suis maintenant, je pensais à la vivre tranquillement, en jouant aux échecs, en jouant. Je me suis installé une jolie petite salle de cinéma, en voyant de bons films, en ayant de bons amis, ceux qui restent, parce qu'à partir de 80, vous commencez à les perdre. Et puis patatrac, pas du tout, il faut se bagarrer, parce que tout va mal. Et soit on fait rien, alors on se cherche un EHPAD, ou on cherche un truc comme ça, ou un petit coin tranquille pour buller. Soit on se dit, mais j'ai trois enfants, j'ai six petits-enfants, comment je peux les aider? Est-ce que ça se passe mieux? Donc, je n'ai pas repris une deuxième jeunesse, parce qu'on ne reprend jamais une deuxième jeunesse. Mais j'ai repris une énergie que j'avais perdue à prendre conscience de qu'il ne faut pas rester peinard. On n'est pas là pour faire pipi, caca, manger, bonjour, bonsoir, dodo, métro, boulot, ce que vous voulez. On est quand même là pour laisser autre chose. Et là, on a perdu tellement de choses du fait de cette vie extraordinaire qu'on a eue. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais on a eu une génération où on n'avait pas de guerre. On n'avait rien du tout. On est né en 43, passionné par l'Europe. Et d'un seul coup, on se retrouve donc passionné par la création de l'Europe. Et puis dans mon métier, puisque j'ai choisi comme métier qui se tirait des statistiques, informatique, statistique, j'ai créé ma première entreprise en 1970, 12. Les dates sont toujours précises avec moi, un ou deux ans près. Qui s'appelait Motivaction. Après avoir fait mon premier job, un jour je fais mes études. Puis les études, c'était génial. C'était une époque où on s'installait dans toutes les universités. On allait à Nanterre parce que c'était là où il y avait les plus jolies filles. On allait à Sorbonne parce qu'il y avait les plus belles bibliothèques. Donc j'étais inscrit à 3-4 boutiques. J'ai fait 2 ans de médecine. J'ai fait du droit. J'ai fait sciences économiques. Puis à un moment, j'ai un prof en sciences économiques qui s'appelait Lionel Stoléru. Et ce type me dit, tu me passionnais, je comprenais ce qu'il disait, je me suis pris de sympathie avec lui. Donc automatiquement, quand vous avez le prof qui colle, la matière qui colle, et votre envie de plutôt de devenir chef d'entreprise, la mayonnaise a pris. Donc j'ai commencé à réussir des études, et à un moment, avec quelques études, quelques diplômes, c'est à l'époque où je me suis dit, maintenant j'arrête ma belle vie d'étudiant, et je passe à ma vie professionnelle. Et j'étais le béni des dieux. Je me rappelle cette semaine où je vais visiter une douzaine de boîtes. À l'époque, les boîtes les plus connues, les grosses boîtes, c'était IBM, c'était Olivetti, c'était. Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui? General Electric qui existe toujours. Mais toutes les boîtes qui existent aujourd'hui, les GAFA, etc., rien n'existait de tout ça. Et dans le lot, la dernière que je visite, c'est une boîte de taille moyenne. C'était Pernod, alors que t'es ni sympathique ni antipathique, mais pareil, je tombe sur un président qui s'appelait Jean Aymar, donc j'en ai marre, Déjà, personnage sympathique, conducteur de voiture, propriétaire d'une SM Maserati où il faisait Paris-Lyon 1h30. Enfin, le bonhomme qui vous séduisait, qui était à l'ancienne, qui vous disait, bon, vous savez, les bosseurs, c'est facile, hein. Vous êtes chef d'entreprise plus tard. Vous commencez à 7h30 le matin et vous finissez, partez le dernier. C'est ça, faut bosser. Et j'étais assez d'accord avec cette philosophie-là. Donc je rentre chez Pernod. Et là, j'y découvre l'entreprise. Et il m'arrive une aventure assez drôle. J'étais avec Jean Aymar dans son bureau un soir pour discuter stratégie. C'était une boîte sympathique, très familiale. Et il y a le concurrent numéro un, Paul Ricard, qui téléphone. Il téléphone et il dit « Allô, alors je fais président, je vais me retirer, je vais quitter la pièce. » Et puis le type, au bout d'un moment, il me dit « Non, restez. » Et puis il y a Ricard qui me dit « Écoute, on est trop petit, j'ai filé ma boîte à mon fils aîné, il en veut la vendre aux Américains, ça va pas du tout, c'est le bordel, il faut qu'on se voit, on est trop petit pour faire concurrence aux Anglo-Saxons, aux Américains, aux Anglais, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on se voit. » Bon, d'accord. Il raccroche, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Je savais pas très bien pourquoi je vous avais engagé, mais j'avais remarqué que vous aviez des œufs qui pétillaient d'intelligence, c'est toujours sympathique de dire ça, et on est toujours sensible aux compliments, mais maintenant je sais pourquoi je vous ai engagé. Vous avez compris ? Vous allez vous occuper de tout ça. Fusion Pernod Ricard, etc. Là, la vraie passion. Avec une autre équipe, bien entendu, je n'étais pas tout seul, avec l'équipe de boîte familiale qui commence à s'associer. D'ailleurs, c'est Pernod Ricard devient aujourd'hui le deuxième groupe mondial de vins, enfin, spiritueux, enfin un petit peu tout. Donc, une très belle boîte. À partir de ça, au bout de... Toujours en jouant au rugby, ce qui fait qu'il m'appelait toujours le col roulé, parce que le lundi matin, j'arrivais souvent au bureau avec des yeux au beurre noir, parce que le rugby à l'époque, c'était toujours le dimanche après-midi. Donc il y a des fois, j'avais pas le temps de... Je mettais toujours des cols roulés le lundi. C'était plus facile à enfiler, puis ça cachait un peu les bleus qu'on avait un peu sur la figure dans le cou. Et donc je me retrouve comme ça avec lui. Et les choses vont plutôt bien, ça avance bien, le groupe se développe, etc. Et puis à un moment, je me dis, bon bah, maintenant j'ai envie, je connais, j'ai une expérience, je veux monter ma boîte. Et j'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé que la voie des études de marché, des sondages d'opinion, c'est-à-dire la fourniture de statistiques intelligentes aux entreprises, les aide énormément à se développer. C'était créé aux États-Unis avec des types qui s'appelaient Stifler. Enfin, il y avait toute une génération américaine qui avait la première de ça. Donc je me rappelle un jour aussi d'une anecdote, puisque c'est plutôt des anecdotes qui sont les plus sympas, c'est celle dont on se souvient en tout cas, où je me dis, je vois mon PDG, que j'aimais beaucoup, Jean-Aymar, je dis, écoutez, je vais vous quitter, je veux monter ma boîte. Quoi ? Mais c'est pas possible. Vous avez pas... J'ai dit, écoutez, la boîte créée maintenant, c'est une belle boîte, familiale et tout, j'ai contribué. Et il y a... Mais les quatre jobs les plus intéressants, c'est vous, c'est Ricard, c'est la famille. Et je fais partie de la famille. Donc, alors qu'il venait de m'offrir, à mon âge, j'étais jeune, hein, la direction du Benelux. Bon... Belle opération, Benelux, Luxembourg, etc. Mais j'avais envie de monter ma boîte, j'avais envie d'être indépendant. Je lui ai dit, écoutez, je ne bouge pas, je vous quitte toujours avec une grande loyauté et grand fair play. Si dans les affaires, j'arrive aujourd'hui à avoir une assez bonne image, parce qu'on n'a jamais fait de cochonnerie de vacherie. Ça se fait de plus en plus. Dans le temps, on se tapait dans la main et on tenait ses promesses. Aujourd'hui, la règle du jeu, c'est un peu qui nique l'autre. Hein. C'est faut pas rêver. Et donc, il me dit, qu'est-ce que vous faites samedi prochain ? Je dis ce que vous voulez, monsieur le président, passez à la maison. Il habitait Villa-Montmorency, Paris, Bellevilla, etc. Je sonne. Alors, c'était un samedi, je me rappelle, j'avais encore un col roulé. J'adorais les cols roulés au week-end. Et alors, j'ai dit voilà, bonjour, j'ai rendez-vous avec le président. Ah oui, entrez. Et là, je vois une espèce de surprise partie. Ah, j'ai réuni les filles à marier de la famille. J'ai trouvé qu'une preuve d'amour que vous donne un type en vous disant « Mais je ne veux pas qu'il s'en aille, je veux le garder, donc il veut faire partie de la famille. » Alors moi là-dessus, d'origine modeste, un grand-père cultivateur de 1 hectare de chou-fleur et d'artichaut à Saint-Paul-de-Léon, une mère, plutôt un télo, mais avec voulant que les enfants fassent des études, j'étais pas un bourgeois. Et quand vous arrivez dans la bourse, pour ça, on peut dire même aujourd'hui, c'est un peu une règle, quand vous êtes d'un milieu très populaire et que vous arrivez dans le bon monde des affaires, vous avez 10 ans de retard. Il faut faire vite pour récupérer la façon dont les bourgeois agissent. J'ai vu souvent dans les grandes familles bourgeoises, un type épouser la sœur de sa femme qui vient de mourir pour pas disséminer le capital, etc. C'est-à-dire la structuration, les groupes de distribution, je sais pas, les muliers, tout ça, c'est des groupes familiaux puissants, structurés, très puissants grâce à ça. Et donc moi, j'avais pas l'habitude de ça. Et d'un seul coup, il veut me faire entrer dans la grande bourgeoisie. Alors, bien entendu, je ne savais pas quoi faire. Je me rappelle, il y avait le maître d'hôtel qui voulait boire quelque chose. Je lui ai dit un verre de lait. Je buvais jamais de verre de lait. Je me suis retrouvé avec un verre de lait. J'ai gardé le verre de lait toute la soirée dans la main. Je savais pas quoi. J'étais pas très doué. Pour ça, pour draguer les filles, j'ai jamais été très doué. Donc, j'étais pas très doué. Et donc, ça n'a pas marché. Mais j'ai toujours gardé ça comme un souvenir. Quelqu'un qui m'a choisi, qui m'a apprécié, qui m'a donné tout ce que je voulais, parce que j'ai pu me payer tous les stages de. Mais je me rappelle, à l'époque, ça s'appelait les stages d'analyse multidimensionnelle. Ce que font aujourd'hui nos ordinateurs, vous savez qu'il y a dans ce téléphone la capacité d'envoyer une fusée sur la Lune beaucoup plus importante que les 100 mètres carrés qu'avait la NASA à l'époque. Donc c'était tout ça, en fait, c'est un peu grâce à lui. Il me refusait jamais rien. J'ai tout rendu, c'est-à-dire j'étais dispo pour être un patron. D'abord, il faut d'abord être un bon second. Et donc ça m'avait beaucoup plu. Ça, c'était la première partie active de ma vie, étudiant, fin d'étudiant, prise d'expérience. Et après commence sa nouvelle vie, chef d'entreprise. Je crée ma première boîte, étude de marché, sondage d'opinion. Elle s'appelait Motivaction. Bon, il y a très longtemps. Et je me rappelle, la première étude de conseil que j'ai, c'est le patron de L'Oréal, Nestlé, qui me dit, on a un problème, il faudrait qu'on repositionne une de nos marques Croquette. Ah, je dis, pourquoi vous avez fait appel à moi? Ben, vous appelez Jean-Louis Croquette. C'était ça. Le mec qui me sort aussi des trucs, vous savez, les vieux présidents qui sont doués, qui ont des principes, des petites phrases clés comme ça. Il me dit, vous savez, moi, quand je vais dans une boîte, je vais aux toilettes. Si c'est nickel, j'ai confiance. Si c'est dégueulasse, si ça sent pas bon, je travaille pas, je prends pas de soutien. Des choses comme ça, aussi simple que ça, on a oublié. C'est comme les jeunes aujourd'hui, dire bonjour, dire au revoir, dire des petits trucs, dire un mot quand on se croise dans la forêt, qu'il n'y a personne, on est tout seul. Et là, dans mes boîtes, je commence par Motivaction. Je crée mon premier bureau filial en Allemagne, puis Italie, puis Angleterre. On était 15 personnes, on était déjà dans 5-6 pays. Parce que j'avais aussi compris que le monde s'internationalise très vite, tout va très vite, et que les gros clients que j'avais, bah, c'était les gros de l'époque, c'était les IBM, les grands laboratoires. Comme on dit souvent, la première partie de notre vie, on a une industrie alimentaire qui nous empoisonne, puis deuxième partie, il y a une industrie chimique et pharmaceutique qui vous sauve. Alors vrai ou pas vrai, le monde fonctionne comme ça, avec tous les excès qu'il entraîne. Et tous les j'aime beaucoup certaines émissions qu'on voit pour justement dénoncer les scandales. Mais le gros du système marcherait bien s'il n'y avait pas quelquefois quelques éléments un peu pervers qui poussent trop loin la mécanisme capitalistique. Et que aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que la création des milliardaires entraîne forcément la pauvreté de beaucoup de gens derrière. Donc, il faut qu'il y ait une limite, soit géographique, soit financière, soit politique. Il faut qu'il y ait une limite, mais il faut organiser ça. Et aujourd'hui, on est dans une phase où changement de société, discussion, on est un peu dans la difficulté. Donc, je crée ma boîte. J'ai commencé à avoir une très belle clientèle. Et puis, que je commence à racheter à l'époque un concurrent que j'avais, qui s'appelait BVA, qui était plus connu que moi, parce qu'il faisait de la politique et qu'il avait le sondage BVA Paris Match. Puis ensuite, il se passe aussi pour moi un événement clé aussi. Lors du congrès des sociétés mondiales d'études de marché, ça se tenait à Barcelone, je tombe sur mon partenaire anglais, qui était mon correspondant, qui faisait un peu une tête, il n'était pas joyeux. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Il me dit, bah, je suis victime d'une OPA hostile. C'est-à-dire, mon groupe est victime par un groupe financier, ils vont nous démembrer, parce que dedans, il y avait Conran Shop, le design, il y avait pas mal de choses. Et il y avait AGB, et donc plus grosses boîtes d'études anglaises. Et je dis, ah bon. Et moi, à l'époque, j'avais 2 je me rappelle, j'avais deux, trois banquiers, un peu 68 ans, bon, qui se ressemblent, ça semble, et qui étaient au Crédit Agricole, et l'un, l'agence Rothschild de Versailles, et l'autre, le Crédit Agricole, puisqu'au départ, mon siège était toujours à Versailles. Et donc, je leur dis, dites donc, il y a un truc là qui. Je sens que si on fait, si on l'aide à rester indépendant, à l'absorber, et nous, ce côté à la Bourse de Londres, parce qu'il s'agissait d'une cellule cotée, là, on peut assurer un développement mondial. Et les mecs, on y va. On t'aide. Parce qu'au moins en Angleterre, quand vous avez un projet, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment? En France, c'était un peu à l'époque où, mais votre grand-mère, elle peut vous assurer quoi pour ouais, c'était un peu ça. Mais j'avais eu des banquiers qui ont marché, qui ont décollé avec moi. Et là, a commencé vraiment avec, bien entendu, mes partenaires anglais. J'ai essayé, j'avais un board où j'avais écossais, anglais, irlandais. Donc j'avais un board, une américaine, une franco-américaine, qui était toujours, je me rappelle, avec son bonnet phrygien, tous les 14 juillet à Londres. Donc il y avait toujours un peu. Et là, j'apprends ce que c'est que le business. Et d'être rivé sur un cours de bourse pratiquement, avec beaucoup d'actionnaires. Et là, j'apprends sur le tas, et beaucoup de succès on a eu. Et honnêtement, il faut dire que le succès est dû à la force de travail qu'on y mettait, mais surtout, on avait la chance du débutant et de l'innocent. C'est-à-dire, quand on a fait cette OPA hostile, je sais que l'adversaire qui faisait l'OPA, pas hostile, mais agressive, comprenait rien à ce qu'on faisait. Honnêtement, on comprenait pas grand-chose non plus, nous. Résultat, à la fin, on gagne, parce qu'on faisait des propositions qui étaient aberrantes, pas logiques, c'était pas dans la norme. Et j'ai jamais été dans la norme, j'ai jamais voulu y être, parce que justement, c'est une force de ne pas être dans la norme. Donc, on se retrouve là, au milieu de tout ça, et ça marche. Et la boîte se met à grandir, et la cote commence à monter. Donc là, bon, dans ces cas-là, tout le monde est content, les banquiers sont contents, les structures sont contentes. Et puis, à un moment, on arrive à être d'un seul coup leader mondial. Nielsen, qui était la référence dans ce milieu il y a de grandes années, d'un seul coup on se dit, mais merde, je suis devant Nielsen. Vous devenez leader. Ben, c'était Lord Nelson, TNS, Sofres. Après, j'ai racheté la Sofres en France, j'ai racheté donc ma Sofres et Codip en Italie, on a racheté Intersearch aux États-Unis, on a racheté, je ne me rappelle même plus des noms, 52 boîtes, dont la Chine, dont Hong Kong. Donc, parce qu'à l'époque c'était indépendant, Japon, on se retrouve leader mondial, c'est-à-dire au moins premier dans la moitié des pays industrialisés du monde. J'ai pu rencontrer une fois Mao Tse-tung, enfin, de loin, mais c'était, je crois qu'il est mort en 92, lui, non? Enfin, c'était le début, on était là-bas. Alors je me dis, c'est pour ça que de temps en temps, quand je fais ça, je me dis, j'aime pas trop des interviews comme ça trop longs, parce qu'on se dit, mais merde, mais je suis vraiment vieux, mais vieux, vieux, vieux. Et rendez-vous, il y a des mecs, ils ont tous disparu. Là, je me dis d'un seul coup, samedi, je vais à Cannes, parce que j'ai deux copains qui dédicacent un livre sur Pompidou. Samedi, c'est Lisnard et Tardieu. Et donc, ils vont dédicacer leur livre. Et je me dis, mais moi, Pompidou, mais je l'ai bien connu. J'écoutais ses discours. Je le voyais avec ses clopes. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a aussi incité à fumer. Et donc, je me dis, c'est bizarre. On se rend compte de la durée de la vie. Comme ça, en faisant des petits sauts en arrière. Parce qu'en général, je ne réfléchis pas trop à ce que j'ai fait avant. J'ai toujours passionné parce que je vais faire demain, ou je vais faire samedi. Et donc, je me retrouve numéro un mondial. Entre-temps, quand vous êtes dynamique, à Versailles, il n'y avait pas de bon restaurant, c'est une ville touristique. Donc, je dis, ben, il faut trouver, on va monter un restaurant. Donc, on monte une copie de l'Entrecôte, de la Porte Maillot, une copie. On faisait que des copies de restaurants parce que ce n'était pas notre métier. À la fin, on se retrouve à Versailles, on avait 12 restaurants. Alors, je dis, mais 12 restaurants, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours avec un copain ou deux copains, c'était toujours avec quelqu'un d'autre. Après, on dit, bah, écoutez, il faut les vendre, quoi. Mais par contre, moi, j'ai gardé, et j'en ai toujours, les pubs irlandais qui sont liés au rugby. Quand j'étais président du rugby à Versailles, financer les clubs de sport, c'est une galère. Passez votre temps à faire la quête. Vous allez toujours demander au maire ceci, cela. Le maire de Versailles, le pauvre Damien, c'était à l'époque. Comment je l'ai fait tourner? Il y avait Mignot au début qui avait viré les communistes il y a longtemps et qui était le maire de Versailles. Alors que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour les communistes parce qu'il y en avait à l'époque certains qui étaient vraiment quand même des très bons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même politiquement, j'ai de l'admiration pour tous les gens, pratiquement de gauche à droite, quand ils sont intelligents, brillants et logiques. Je n'ai plus de logique de parti. C'est-à-dire que je suis engagé dans aucun parti politique. Mais quand vous écoutez parler des gens, vous dites, lui, il a une partie de la vérité. L'autre, il a une partie. Et quand vous les voyez débattre dans un débat à la télévision ou ailleurs, ils se foutent sur la gueule parce que des hommes politiques doivent se foutre sur la gueule. C'est ridicule. À eux deux, ils sont tellement plus forts. Et donc là, on est toujours un peu gêné de voir ce gâchis d'énergie. Je ne parle pas des extrêmes. Alors, c'est facile de dire les extrêmes droites, les extrêmes gauches. C'est pas bon. C'est souvent de chez eux aussi que sortent les idées et qui sont reprises par le centre. Mais l'organisation même du monde politique, on a l'impression que ceux qui choisissent de faire une carrière politique ont choisi une carrière parce que c'est de la castagne tout le temps. Ils se plaignent après, mais on a l'impression qu'ils aiment ça. Ils aiment se taper dessus. Il y a un moment donné, il y a un copain qui vient de me dire est-ce que tu penses qu'une monter une télévision privée dans une grosse résidence, je ne sais plus si c'était dans la banlieue Versailles, c'est possible. Il y a même mieux à faire. On était en 80, il y a Mitterrand. Il veut libérer les ondes. Il faut créer des radios. Alors j'en crée une. RFM. Devinez ce que ça veut dire. RFM. 80, à votre avis. Radio, François Mitterrand. Voilà. J'ai vu ça parce que l'autre jour, il fait radio. François fêtait ses 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus. Et il y a un type sur Internet qui dit, oui, ça veut dire radio, fréquence modulée, etc. Alors j'avoue avec mes gros doigts sur Internet, je dis, pas du tout, je m'appelle Jean-Louis Croquet, j'ai créé cette radio avec un copain versaillais, et nous l'avons appelé Radio François Mitterrand, pour remercier François Mitterrand qui libérait les ondes et qui cassait le monopole, qui n'a pas empêché Mitterrand de nous brouiller. Quand moi j'ai recruté Coluche, qui venait faire le pitre à l'antenne tous les soirs de 7 à 8, à appeler les politiques en direct, On était attaqués par les gendarmes, défendus par les CRS, ou l'inverse. On avait installé une antenne de 40 mètres sur le toit de Vélizy. Puis on avait découvert que les lignes à haute tension de 400 000 volts, quand vous dirigez le faisceau d'émetteur des ondes, vous portiez, on avait plus quand on était brouillé à Paris, on avait plus d'auditeurs à Marseille et à Copenhague qu'à Paris. Parce qu'on dirigeait notre faisceau sur les lignes 400 000 volts, puis en fonction des délestages et EDF, ça partait dans un sens, dans l'autre. Enfin, là aussi, tout ça, on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, simplement, c'est les supports logistiques ne sont plus les mêmes. Faire des études de marché, des gros sondages d'opinion dans le temps, c'était compliqué, c'était lourd, c'était cher, parce qu'il fallait recruter les enquêteurs, faire des routes random, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, tout devient beaucoup plus facile et beaucoup plus vite. D'où, quelquefois, le danger même des fortunes qui se créent. Vous montez du commerce traditionnel, juste la bonne logistique avec Amazon, monde entier. Bon, Amazon se cassera sans doute la gueule dans quelques années, parce qu'il y a un moment donné, la taille vous tue. C'est-à-dire, vous grossissez, votre ventre vous cache les yeux. Et donc, on ne peut plus y arriver, donc ça arrivera. D'ailleurs, je crois que c'est Bezos, le patron de tout ça, il l'a déclaré lui-même. Il a déclaré, oui, nous, on va arriver à un moment donné où on va en crever. Vous démarrez une plateforme aujourd'hui sur Internet, sur la base d'une idée. Vous pouvez chez vous créer votre plateforme, créer votre entreprise, développer votre produit, développer vos idées. Et vous avez, simplement, si vous vous intéressez à ça, les outils modernes vous donnent la possibilité de contacter des millions et des millions de personnes. Donc aujourd'hui même, refaire un parcours comme celui-là, il serait peut-être pas plus intéressant, parce que moi, mon parcours à l'époque, il fallait se retrouver en tête-à-tête avec des bonhommes et les convaincre. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, j'avais un rendez-vous avec notre distributeur de vin norvégien, qui est un type adorable, et mon collaborateur me prévient par MMS. Moi, MMS, je ne lis pas. Je lis une fois de soir, je regarde les MMS. Elle a bien parlé. Vous savez bien que moi, vous m'appelez, vous gueulez en bas, il est arrivé. Ou je suis la voix, je suis un vocal, je suis un téléphone. Les MMS et les trucs, je ne suis pas arrivé sur mon téléphone. Je n'ai même pas de son qui m'indique qu'il y a un MMS que je reçois. Des fois, je coupe uniquement le son du téléphone. Mais je fonctionne avec des outils anciens. J'ai gardé ce besoin impératif du contact, d'avoir quelqu'un en face de moi. Alors, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que certaines réunions... J'ai un fils, j'ai trois enfants. J'ai David, qui est photographe, Thomas, qui est un chanteur très connu, qui est marié avec une star du monde du cinéma, et ma fille Anna, qui elle est aussi une petite chef d'entreprise et qui ressemble beaucoup à son père. Mon fils maintenant, on s'appelle, on FaceTime. Et là, je m'aperçois qu'avec les habitudes, il m'a appelé cette nuit, il me dit « Papa, j'ai 20 heures d'avion, je viens de finir un concert à São Paulo, je vais à Houston, je vais… » Chaque fois qu'il m'appelle, dans les aéroports. Parce qu'il y a un truc marrant dans notre vie, c'est que moi, quand j'étais étudiant, un de mes jobs de vacances, j'étais steward à Air France. C'était génial, sur 707. Et lui, dans l'avion, il n'aime pas trop l'avion. Donc lui, il me dit « Mais maintenant, je t'ai battu, j'ai fait… bien que j'ai fait ça pendant 3 heures. » J'ai dit, ouais, t'as pollué beaucoup plus la planète que moi parce que t'as fait des vols. Et là, il m'appelle cette nuit et il me dit, voilà, je suis à Houston, je suis, on est en vidéo. Et cette vidéo même vous permet à la limite de discuter avec pratiquement n'importe qui. Il suffit de s'équiper, j'ai un ordinateur avec un écran un peu plus grand. Vous mettez bien en face l'écran, si lui est dans bonne condition, mais on est vraiment comme on était côte à côte. Donc tout ce qui était possible avant... c'est possible aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il y a d'autres possibilités qu'on découvre. Parce que l'intérêt dans la vie, c'est de créer, de découvrir. Ce n'est pas de recopier des modèles qui existent. Et donc, ces modèles-là, on peut les découvrir et les redévelopper de façon extraordinaire. À l'époque, la façon d'être en face à face, en se contactant, on sentait les gens en face, on sentait les gens, on pouvait s'engueuler, on pouvait se frapper. Ça arrivait rarement, mais de temps en temps, ça peut arriver. Sur Internet, tous les mauvais coups sont permis. Vous êtes quand même caché, on ne sait pas où vous êtes dans un endroit. C'est-à-dire qu'on peut monter des coups complètement tordus sur Internet. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est effectivement le danger. Vous voyez le nombre de cambriolages dont vous êtes victime par jour, on essaie de vous dire, attention, vous savez, tous les sites, les phishing, on essaie de vous piquer. Donc vous avez beaucoup plus de truands cachés aujourd'hui, et le pourcentage de truands chez les hommes d'affaires bourgeois et chez les voyous de là, c'est les mêmes. On a les mêmes choses. Donc aujourd'hui, vous avez des coups tordus qui se passent sur Internet et qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. C'est-à-dire, là, vous ne les avez pas en face de vous. Alors que dans la vie, quand vous avez quelqu'un, c'est comme un match de rugby. Vous avez le gars en face de vous, vous savez celui-là, s'il joue dur, il joue réglo, ou si au contraire, vous allez être par terre, vous allez prendre un coup de genou dans la tronche sans vous rendre compte. On sent moins l'adversaire. Moi, je fais partie de la génération tactile. C'est-à-dire, j'ai souvent besoin de goûter, de toucher, pour me faire une idée. Alors que maintenant, sur informatique, vous avez des jeunes qui manipulent ça avec une aisance. Ils ont développé pratiquement un sixième ou septième ou huitième sens. Mais ils ont développé des facilités que si j'étais jeune, je me dépêcherais de les acquérir tout de suite. Aujourd'hui, vu mon âge, j'ai pas envie de faire une XIème carrière. J'ai envie, au contraire, d'essayer de corriger, d'essayer d'aider, de préparer. Je suis redevenu maintenant quelqu'un qui veut donner un coup de main à ceux qui ont des projets intelligents et des projets intéressants, en disant, voilà, je peux participer un peu. Vous voyez, si on peut faire un reproche aujourd'hui à ce gouvernement et ces jeunes brillants qui sortent tous des mêmes écoles, que ce soit l'ENA, l'inspection des finances ou autre, c'est qu'il n'y a plus assez de vieux qui les conseille autour d'eux, un peu les conseils des sages, qui dit, mais vous savez ce que vous faites, vous réinventez le fil à couper le beurre, hein. On l'a fait il y a déjà tant de temps, voilà pourquoi ça ne marche pas. Là, vous voyez, tout le monde s'affole. Là, aujourd'hui, on s'affole parce qu'on a un taux de 5,5. Bon, et aussitôt, réunion, séminaire et tout, c'est un côté ridicule, mais à une époque où justement, ils ont tous ces outils, ils se retrouvent encore dans des séminaires, des châteaux, à prendre du café, et là, il y a une perte de temps colossale. Une perte d'argent, parce que quand on voit, on dit, mais quand même, avec tout l'argent qui nous emmerde, elle nous pique tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Aujourd'hui, on est mal adapté. Tout simplement, on a perdu le sens du boulot. Les gens se figurent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer du travail chez soi. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire à des heures. On cherche le confort. Or, le succès, ce n'est pas le confort. Ça n'a jamais été le confort. Demandez à n'importe quel champion olympique, ce n'est pas confortable la préparation des Olympiques. C'est très dur. Et aujourd'hui, on veut que tout soit confortable. Et la vie n'est pas confortable. Si elle est confortable, elle est chiante. Je me rappelle une fois, j'avais toujours envie, il y a une trentaine d'années, donc j'avais à peu près 50, un peu plus, même un peu moins, 55, 50, 57 ans. Je vois, j'achète, je ne pouvais plus jouer au rugby, puisque je commençais à vieillir. J'achète une petite vigne à côté de Chablis, 1h15 de Versailles, de Paris, à côté. Et donc, je cultive ma vigne le week-end, associé avec un vigneron archi-traditionnel. Je me rappelle, il s'appelait Poulet. Il y avait le portrait du général de Gaulle qu'il fallait saluer dans la cave. Enfin, tout l'archétype de la tradition de la vigne, c'était rigolo comme tout. Et puis, j'ai dit, passion, passion. Il dit, ça, quand même, c'est un beau métier pour finir ses jours, parce que c'est pas travailler, c'est quand on fait ça, c'est un vrai plaisir. Alors, les plus philosophes vous diront qu'il y a trois façons de se ruiner. Il y a les femmes, le casino et le vin. Bon, choisir le vin, autant, parce qu'on en profite, parce qu'on en picole pas mal au passage, donc c'est toujours assez sympathique. Donc, à un moment donné, je quittais Londres, je partais au Canada. J'adorais voyager. Je partais à l'avion, peut-être plus vraiment. J'étais toujours épicurien, donc je buvais beaucoup, je fumais trop, enfin, j'avais tout qui allait de travers. Ce qui fait qu'un jour, 57 ans, aïe, 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 il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas bien, etc. Infarctus, bam, boum, bim, hop là. Et donc, au repos, pontage, avec Gérard Depardieu d'ailleurs, en même temps. Alors lui, comme il est plus connu que moi, il a eu 5 pontages, moi j'en ai eu que 2,5, enfin, il y a eu un pontage et des stents, enfin, des trucs. À l'époque, les stents n'existaient pas encore beaucoup. Mais, et donc après, je me surveille. D'ailleurs, ma visite, c'est la semaine prochaine. Je la fais à Draguignan maintenant. On pédale, on regarde, etc. Mais bon, ça va pas mal. Le cœur, ça pète ou ça tient, quoi. Et donc, je me dis, c'est marrant, c'est la première fois que j'avais pas envie. On était premier, leader mondial. J'ai dit, maintenant, il faut que je pense à la dernier quart de ma vie, quoi. Et puis, donc, je vois quelques grands spécialistes. J'ai dit, voilà, dans un an, j'aimerais acheter un beau vignoble. Je voudrais qu'il soit, si possible, au bord de la mer, si possible, avec des possibilités de développement intéressants. Mais je ne cherche pas une résidence viticole, je cherche un vignoble. Donc, je veux que la terre soit bonne, que les cépages soient bons, que l'histoire du domaine soit bonne. Voilà. Et il y a un type, je vois deux types, un type de Bordeaux et un type de Saint-Rémy-de-Provence, qui me tiennent au courant pendant toute une année. Et puis à un moment, il y en a un qui je lui dis, écoutez, ça y est, c'est bon. Presque une petite année, j'avais commencé à préparer ma succession, laisser la place à un autre, etc. Un groupe comme ça, il faut quand même qu'on fasse des choses qui tiennent la route, pas mettre les choses en danger. Et j'ai dit, voilà, c'est bon, on peut commencer à visiter. Donc 3-4 week-ends, il m'emmenait à Bordeaux, et puis regarder un peu l'espace. Et puis comme toujours, ici, on visite un coup Bordeaux. Alors Bordeaux, un petit fils de marchand de cultivateur de choux-fleurs et d'artichauts qui veut s'installer dans le vin. Non mais c'est quoi? C'est un rêve. Qu'est-ce qu'il croit celui-là? Et celui qui me disait ça, j'ai appris avant que lui était dans la betterave sucrière. Donc c'était toujours les frimeurs, ça. Après, je vais dans l'Occitanie. Je m'aperçois que la côte, là, elle est vraiment bousillée. Ils n'ont pas fait de cadeaux, etc. Puis je me dis après, Chablis, je voulais descendre plus bas, plus vers le soleil. Et puis je ne voulais pas venir dans le Var, parce que c'était l'époque où il y avait des gros problèmes. Mais les Var, c'est des Corses. Ils tuent les députés, il y avait un assassinat. Et puis celui qui me vendait ça, qui était un type intelligent, un œnologue, il m'a dit, écoutez, on est en avance, on venait de visiter un vignoble dans Porquerolles, celui, je crois, qui a acheté récemment Chanel. Enfin, il a été vendu déjà 2-3 fois. Il me dit, j'ai un vignoble dans le Haut-Var, sympathique, maintenant que je vous connais un peu mieux, ça vous plairait beaucoup, mais ce vignoble, c'est pas du tout au bord de l'eau, il est un peu plus loin, je n'ai pas envie d'y aller. Et puis, en fait, ben, on a le temps, ben, allons-y, vite fait, on jette un seau. Et déjà, on rentre dans le vignoble, et j'ai dit, mais dans votre dossier, c'est au bord de la route. Et c'est vrai que la photo qu'il avait faite devant le vignoble, je pensais que c'était la départementale. J'ai pas envie d'avoir une dormière avec une chambre, sur, passe des bagnoles sous les fenêtres tout le temps. Et pas du tout. Et je commence à rentrer dans le vignoble, et là, il se passe des trucs bizarres. Déjà, j'ai une holding financière qui s'appelle Virtus. La pendule solaire ici, il y a Sicomnia Virtus sur la permanente. Déjà, il y a un nom, il y a un truc. Dire, en plus, je descends de la voiture, je commence à aller pisser tous les arbres qui traînaient. Alors ma femme fait une grosse bourde, elle était avec moi ce jour-là, d'habitude elle ne visitait pas avec moi, mais et elle dit au type avec qui vivant, elle dit, écoutez, quand il commence à pisser partout, vous pouvez annuler les rendez-vous d'après. Alors, après pour discuter le prix, vous pouvez toujours vous brosser, le type il sait que vous êtes hameçonné, vous êtes dedans, et là je tombe sur un vignoble qui faisait entre 300 et 400 hectares, créé par les Romains. Donc des trucs, un dossier du vendeur, très bonne qualité sur les cépages, l'encépagement, les qualités de la terre, de chaque, bien analysé, exactement ce que je cherchais. Et je lui dis, bah, écoutez, on tape dans la main, on reste là. On reste là. Et alors celui qui vendait, c'était un financier belge qui l'avait racheté. Il y a une dame qui a beaucoup marqué ici, qui était une dame, Madame Lapère, la femme d'un médecin niçois, qui avait eu le domaine pendant 40 ans à peu près, et qui faisait du bon vin qu'elle portait à la vente au marché, à Marseille et à Nice, enfin dans la région. Et donc il y a toujours ici des bons vins rouges, et pas uniquement du rouge castré qui s'appelle le rosé, quoi. C'est devenu une mode qui malheureusement même tue quelquefois les bons vins de rouge et blanc. On fait rosé, rosé, rosé. Mais bon, c'est un vin à la mode et un vin qui marche. C'est plutôt un vin business. Donc je m'installe là. Je commence par me construire un chai pour fabriquer des vins de grande qualité. Et donc, et d'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir fait un chai de ce type-là, parce qu'aujourd'hui, j'y fais des vins nature, c'est-à-dire sans sulfite. Et pour ça, il faut avoir des chais qu'on peut vraiment très modernes, qu'on peut stériliser complètement. Et donc, j'attaque ma vie de vigneron, en ayant ma vie à cheval un petit peu en Angleterre avec mon business. Mais il faut quitter l'un. Pour réussir un business n'importe lequel, il ne faut pas vouloir faire ça en amateur. Et donc j'avais tout réglé en Angleterre. Un petit souci, celui qu'on avait prévu comme successeur, il a eu après une maladie bizarre. Quand il prenait l'avion, il saignait les oreilles. Et là, malheureusement, bah, quand ça arrive, parce que ce métier de manager une boîte internationale, à l'époque... Aujourd'hui, peut-être, ça serait moins, mais il fallait passer deux nuits par semaine dans les avions. Et il fallait aller partout, il fallait coordonner tout ça, c'était du boulot. Donc, j'ai repiqué un peu du nez quelques semaines pour essayer de régler tout ça. Ça s'est réglé. Il y a même un vieux comme moi qui est revenu à la boîte pendant 2-3 ans. Et ça s'est parfaitement réglé. Et là, j'ai commencé ma vie de vigneron. Après mes 20 ans de vie de vigneron amateur éclairé à Chablis, où je connaissais tous des blancs. Là, je fais un petit stage à Aubryon pour les rouges. J'ai recruté un maître de chai et un œnologue très spécialisé dans les rosés. Et je me suis constitué une équipe où on s'est donné tous les moyens de faire un vin très brillant. Et parmi les professionnels, on a aujourd'hui une image de nos vins qui est tout à fait exceptionnelle. On est chez Ducasse, chez Rebuchon, enfin ex-Rebuchon, dans tous ces restaurants-là, on est très présents. Et moi, dès qu'il y a du boulot ici, je suis là. C'est-à-dire quand il s'agit des vendanges, quand il s'agit des traitements, alors on est bio, bien sûr, on est bio, archi-bio, plus que bio. Quand il s'agit des dégustations, quand il s'agit surtout des assemblages, où j'assemble tous les vins et je participe à ça. Et puis quand il n'y a pas trop de boulot, bah, ici, l'hiver, on est dans un village, et malheureusement, dans les villages comme ça, on s'emmerde, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, soit vous avez un bon partenaire d'échecs, et puis ça va, vous passez une bonne soirée, soit il y a des bons matchs de rugby à la télé, autrement, bah, d'ici, vous allez partout, vous allez à Paris, vous allez à Londres, vous allez à Rome, vous faites tout ce que vous voulez, et puis il y a quelques petits matchs de rugby dans la région, qui quelquefois sont sympathiques. Quoi. Alors, est arrivé déjà une alerte qui nous a tous, le Covid. Alors, la crise du Covid, ici, on l'a traité très différemment. On s'est retrouvé isolé. Au contraire, le Covid était devenu un club méditerranéen où les gens venaient, passaient quelques jours à l'isolement pour être sûr qu'ils n'avaient pas le Covid. Et après, on est resté 5-6 mois. Mais tous les enfants, les petits-enfants qui étaient là, disaient, mais attends, c'était 6 mois de vacances ici. C'était absolument génial. On ne s'est pas rendu compte que malgré les gros emmerdes, on était dans le paradis, au paradis. Ensuite arrive le début réel de la crise climatique. On commence à en voir les effets il y a 5, 6, 7 ans. On commence à voir des tendances à la sécheresse. On commence à lire les rapports du GIEC qui sont très bien faits, que personne ne lit malheureusement, parce qu'il suffit, il suffit de s'abonner et de récupérer l'information. Qui vous dit, avec des gens et des preuves et des gens sérieux, qui vous disent qu'ici, au début, c'est dans 30 ans, puis dans 20 ans, puis maintenant, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, ici, il n'y aura plus d'eau. Nous, on a 6 forages, il n'y en a plus qu'un qui marche. Et encore, c'est celui qu'on a fait la dernière, qui est à plus de 200 mètres. Tous les autres sont à sec, même encore aujourd'hui, avec ce qui a plu. Donc, il n'y a plus d'eau. Donc, on se rend compte que mes vendanges de cette année... J'ai fait 45% du volume, parce que comme on est en bio, archi-bio, plus que bio, bio machin, bio truc, On est effectivement dans une situation où, quand vous avez le 26 ou 27 mai de l'année dernière, 7 cm d'eau qui tombe et que le lendemain vous avez 38 degrés, les 100% de Cabernet, le Merlot, mildiou détruit tout. Donc là, la nature nous tombe et nous détruit tout. Et parce que, bien entendu, on n'utilise plus les saloperies que certains ont remis en cours récemment au ministère de l'Agriculture, quand on voit que pour la betterave, pour les cerises, on remet en cause des produits. Non, c'est sûr que nous, maintenant, on a d'autres produits, mais qu'à la limite, faire du vin de bonne qualité nous revient plus cher que de faire du vin avec des cochonneries. Mais aujourd'hui, vous avez deux types de vignobles. Vous avez les vignobles tenus par des vignerons qui font un travail d'artisans et d'artistes. Puis vous avez les industriels qui veulent faire du vin, qu'on appelle négociants, qui eux achètent du vin, travaillent du vin. Et 82% des vins sont vendus en supermarché. En supermarché, bah, jusqu'à preuve du contraire, vous ne goûtez pas les vins. Vous achetez des vins, vous achetez du marketing, vous achetez une étiquette. Alors c'est pas cher. C'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, la crise, c'est que tous les Bordeaux de base sont à moins de 2 euros, partout. À moins d'un euro chez Lidl, mais à moins de 2 euros chez Carrefour. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations où le monde du vin, qui était un monde où on pouvait encourager les jeunes à y aller en disant, allez-y prudemment. La consommation du vin baisse partout. Alors pourquoi? Parce que déjà, dans le vin, il y a de l'alcool. Alors l'alcool, à part un de nos ministres de l'Agriculture qui pensait que l'alcool du vin, ce n'était pas le même que celui de l'alcool du pastis et du whisky. L'alcool est à haute dose est très mauvais. Par contre, tout le reste du vin, si on rajoute pas de cochonnerie, c'est une boisson tout à fait acceptable. Enfin, c'est un jus de fruits qui pense qu'à devenir du vinaigre. Et à un moment, il n'est pas mauvais. Donc, on essaie de bloquer et de faire durer une période où il va être agréable à boire. Et donc, c'est ce qu'on poursuit. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que 4% des gens apprécient la complexité d'un bon vin. C'est tout. Le reste, 3-4% de plus, savent détecter un défaut, mais c'est-à-dire que moins d'une personne sur 10 va apprécier la qualité du travail que vous faites. C'est déjà pas mal. Il faut les trouver. Avec le temps, on finit par les trouver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a que 3 ou 4 clients par jour, mais on passe une heure et demie avec chacun pour un grand restaurateur. Ce matin, j'avais mon importateur norvégien avec qui on discutait, chaque vin, ah oui, celui-là, on n'a pas tout à fait mis, ben non, on n'a plus de Merlot, donc on a remplacé le Merlot, on travaille avec 14 cépages. Donc ça reste un métier passionnant. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, ma stratégie qui était de dire, je vais essayer de faire chaque année entre 150 et 160 000 bouteilles pour amortir mes coûts, parce qu'on est très moderne, machine, etc. Ben aujourd'hui, il faut que j'amortisse mes coûts avec une vente de 80 000 bouteilles, c'est-à-dire la moitié de la récolte. Alors pourquoi la moitié? Ben cette année, il y a eu le mildiou qui nous a dézingué à 30% par sa brutalité, et surtout la sécheresse qui chaque année nous gratte encore 35%, 30-35%, et qui cette année, la sécheresse. Aujourd'hui, on a 2,5 fois plus d'eau à la même date que l'année dernière. Donc ça sera mieux cette année. Donc si on n'a pas d'accident climatique important, on va arriver à faire, peut-être on arrivera aux 100 000 bouteilles, ce qui serait pas mal. Bon. Mais maintenant, il faut s'adapter aux 100 000 bouteilles. Donc 100 000 bouteilles, ça veut dire adieu la conquête mondiale. Maintenant, c'est small is beautiful. Hein. C'est-à-dire aux États-Unis, où il fallait qu'on ait Trump qui nous avait taxés, etc. On a tiré une croix sur les États-Unis. À part une commande qui vient, je veux absolument votre vin, on vous l'envoie, on ne fait plus d'efforts. Le Brexit, l'Angleterre, c'est compliqué, on arrête. La Chine, les pays asiatiques, on arrête. Parce que les Chinois, maintenant, ils vous copient tout, ils copient votre vin, etc. Donc on se concentre sur, on relocalise toute notre position, c'est-à-dire on se concentre sur notre village, nos villages, la Provence, la France. Et la filière bah, nord. La filière espagnole, elle est très productive de beaucoup de vins, pas mauvais et pas cher, donc là on aura du mal. L'Italie, c'est un peu pareil que les Espagnols. Donc nous, maintenant, notre marché, c'est Scandinavie, donc Norvège, Finlande, Suède, Danemark, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, Luxembourg, Suisse, France, donc voilà. Et là, ça va être. Et on s'aperçoit que. Cette politique qu'on a changée vraiment totalement il y a un an et demi, ça redevient la politique qu'on avait il y a 25 ans. C'est-à-dire les clients, par exemple, il y a un truc marrant qui m'arrive, mon livreur, il se fait piquer par les gendarmes, il se fait souffler dans le ballon, il se fait sucrer son permis 6 mois. Alors, une boîte normale, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Il n'y a pas de permis, t'es viré, bah, tu te débrouilles. Là, je dis, c'est pas ça, c'est les livraisons de la région ici, c'est quand? On dit, c'est le vendredi. Bon, bah, c'est moi qui vais livrer avec toi, moi je conduis la camionnette. Et j'ai repris un contact avec tous les grands restaurateurs qu'on a dans le coin. Et maintenant, j'attends toutes les semaines avec impatience le vendredi matin où je vais les rencontrer. Et lui, il décharge, il charge parce qu'il est jeune et puis il fait son boulot. Et moi, je livre. Et là, je redécouvre les plaisirs de la petite entreprise artisanale, alors qu'avant, j'étais reparti encore dans une entreprise aux États-Unis, etc. Non, là, je rediscute avec les gens qui disent, comment ça se fait? C'est vous qui venez livrer, mais comment? Et alors, il ne se rend pas compte qu'on peut, ça peut être très agréable. C'est vous qui venez livrer, alors parce que je suis patron, c'est pas bien de livrer. C'est idiot. C'est idiot, puisque ça, c'est un vrai plaisir. Ben, j'ai l'impression aussi que je fais la logique de la vie, c'est-à-dire je reviens, je retourne à la terre, je redeviens comme mon grand-père, une petite entreprise. Simplement, il faut, alors ça c'est compliqué parce que de ne pas se faire avoir, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des coûts de structure un peu plus importantes, donc il faut qu'on réduise tout doucement les coûts. Alors, quand les gens prennent leur retraite, tout ça va, mais il est hors de question de licencier des gens parce que l'économie va mal, ben, c'est à nous de réussir à équilibrer. Je pense qu'avec cette technique-là, on s'en sortira. On s'en sortira pas de la crise climatique, parce que là, il faudra qu'on continue. Mais aujourd'hui, on peut arriver à trouver des solutions qui soient plus intéressantes si on arrive à résoudre ce problème de l'eau. Alors l'eau, j'ai vu récemment, j'ai vu des vignerons israéliens qui sont venus. Ils arrosent leur vignoble à 100% de l'eau dessalée. Ils m'ont dit, ça a changé un peu le goût de notre vin, mais on y arrive très bien. Bon, c'est tout, mais alors après, qu'est-ce que vous faites? Vous rejetez quoi? Ben, on prend de l'eau, on rejette un tiers d'eau trois fois plus salée et on garde les deux tiers d'eau douce. Ben, je dis, mais alors, si tout le monde fait ça, si tout le monde fait ça, ça va changer la Méditerranée, ça va devenir la mer morte. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans une mer où vous allez bousculer toute l'écologie. C'est pour ça qu'il faut. Vous rappelez peut-être de Dumont, vous avez dû connaître, bon, à l'époque. Tout ce qu'il disait, en fait, moi je l'écoutais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais été un fan, mais j'écoutais ce qu'il disait et je participais pas du tout aux espèces de rigolades. T'as vu ce vieux, qu'est-ce qu'il nous dit? Il comprend rien, etc. Non, quand je vois des gens qui aujourd'hui nient complètement le changement climatique et la prudence, quand je vois le dimanche ce ciel bleu avec un jeu de mots croisés dans tous les sens, dans les avions qui reviennent à la maison, être parti pour 20, 30 euros à. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour Airbus quand ils vendent 300 avions, mais en même temps, quand vous voyez ces 300 avions qui d'un seul coup se mettent en l'air, ce qui sont des usines à polluer et donc à contribuer à dérégler tout ça, non, il faut vraiment que des gens, et à notre gouvernement, tout le monde s'en fout de ça. Ça, c'est pas devenu le. J'écoutais les quelques débats qui essaient d'exister maintenant pour les élections. Malheureusement, la forme des débats est moche, ils se tapent les uns sur les autres, ils parlent tous ensemble. On comprend plus, les gens ne savent plus débattre. Ils ne savent plus débattre, s'envoyer des arguments. Seuls les caractères forts finissent par dominer. Donc, c'est les orateurs. On ne va pas élire des orateurs. Il faut élire des constructeurs. Il faut élire des gestionnaires. Il faut élire des gens qui savent où ils vont. Et ben aujourd'hui, ben, on n'a que des deuxièmes couteaux partout, hein. Les premiers couteaux, je ne sais pas où ils sont, mais il n'y en a plus beaucoup. Alors. J'ai un. Alors, on dit un beau-père, mais ce n'est pas mon beau-père, c'est le beau-père de mon fils. Mon fils, un jour, me voit et me dit, Papa, tu vas être surpris. Je suis amoureux. Ah bon? Bah, mais tant mieux. Surtout que lui, c'était un fils spécial, parce que Thomas, dès ses 10-12 ans, il m'a dit, Papa, j'aime mieux être coursier dans une usine qui livre des CD de musique que d'être architecte, docteur. Je veux faire ma vie dans la musique. Ben, j'ai dit, écoute, on fait un deal, quoi. Essaie de passer un examen, n'importe lequel, jusqu'au jour où il me dit à Paris, je l'emmène, il me dit, je vais à Paris, je te dépose, si tu veux, je te dépose à la fac, là, oui. Puis après, à un moment, il me dépose, et puis il dit, je te laisse où? Ben, laisse-moi là. Mais je dis, là, Thomas, c'est pas la fac, c'est un parking. Oui, mais attends, tu vas où? Tout le monde savait qu'il n'était plus à la fac, qu'il était au studio d'enregistrement tous les jours, sauf moi le dernier. J'ai dit ça, je t'en veux parce que tu ne m'as pas fait confiance. C'est vrai que je t'avais demandé de passer un diplôme, il a passé un diplôme, il a une licence de. Je ne sais même pas de quoi, il a une licence de quelque chose. Il me dit un jour, et je découvre que c'est Sofia Coppola. Je l'ai connue quand elle tournait Marie-Antoinette à Versailles. Et comme à Versailles, j'ai un pub irlandais qui s'appelle Au Paris sur la place d'Armes. C'est un pub irlandais qui est bien entendu 14 barman, 14 rugbyman. Hein, c'est rugby. Et donc, quand je vois que c'est Sofia Coppola, et, oh oui, effectivement, c'est une, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais surpris. Et d'un seul coup, un jour, il y a le père de on m'annonce qu'il va, où est-ce qu'on peut se poser le plus près. Je dis, bon, il y a Toulon, c'est pas mal, parce qu'il possède un avion français. C'est amoureux des Français. Hein. Citroën, beaucoup de Citroën. Les avions, c'est les Dassault. C'est les avions d'assaut, les tri-réacteurs. Enfin, il a un avion qui a carrément toutes les couleurs. Peint comme un perroquet, toutes les couleurs, dit pourquoi ton avion il est comme ça. Parce que si un terroriste veut m'emmerder, mettre une bombe, quand il va voir ça, il dit mais il est fou ce mec, il va éclater de rire. Donc il y a toujours des réactions comme ça. Bon, il arrive ici avec sa femme et il me dit je suis en mission, ma fille Sofia, qui dirige un peu la boutique, m'a dit il faut que tu ailles voir mon futur beau-père. Et t'as intérêt à bien t'entendre avec lui, parce qu'autrement, ça va pas aller. Alors il me dit, je suis obligé d'être poli, c'est pas mon genre. Donc je t'ai amené le meilleur vin que je fais. Est-ce qu'on peut goûter ton meilleur vin? Ben, bien sûr. Alors il me sort des Ingelnook 86, je me rappelle. Moi, je lui sors l'Exception Carré, des vins qui sont déjà des très bons vins, très haut de gamme. Il prend deux grands verres, il ouvre deux bouteilles, et il mélange moitié du verre, son vin et le vin. L'autre vin. Il prend le verre, il m'en donne un, alors on se coule le verre, je le laisse faire. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, le meilleur vin du monde, c'est celui-là. Alors j'ai dit, on voit que ton métier, c'est metteur en scène. Moi, mon nouveau métier, et je le revendique maintenant, au début, je mettais propriétaire et coltan. Maintenant, sur mes cartes de visite, il y a marqué vigneron. Moi, mon métier, c'est dommage. Là, avec deux grands vins, deux bons vins, t'en as fait un. C'est vrai que l'assemblage, il passe bien, mais c'est quand même moins bon que de les boire séparément. Ça, c'était le premier contact avec lui. Après, il m'a demandé souvent des renseignements sur le vin. Est-ce que tu peux connaître une machine? Mais lui, il vendait 25 millions de bouteilles. Donc, c'était un industriel du vin. Et un industriel du vin, il avait la cuve la plus grande de tous les États-Unis, avec des moteurs électriques de bateau à l'intérieur pour homogénéiser le truc. Il avait un restaurant où circulaient les bouteilles en bouteille. Enfin, il faisait un spectacle avec le vin. Récemment, il a vendu pour une très grosse somme tout son vin dans Sonoma Valley. Il a gardé que son premier vignoble d'origine à Napa Valley, qui s'appelle Ingelnook, et qui produit, je crois, 50 ou 60 000 bouteilles. Donc même pas ce que je produis, moi. Mais de très bons vins. Et il ne s'en occupe pas directement. Il a des gens spécialisés. Il a, je crois que c'est de Renoncourt, qui a été son œnologue à un moment. Et donc, il a revendu ça très cher, parce qu'il termine son dernier film, sur lequel il est depuis 10 ans. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais son dernier film, c'est un peu son testament, quoi. Ça. Donc c'est compliqué pour un personnage aussi. C'est vrai, quand on regarde ses grands films, il a marqué son cinéma, comme sa fille est en train de marquer son territoire aussi. Avec un accident dramatique, son fils aîné qui meurt un jour de Noël en faisant du ski nautique. Les malheurs qu'on peut avoir dans la vie. Mais chaque fois qu'on s'est vu, plus ça va avec le temps. Mais 70 ans, il était venu. Mais 80 ans, il était là. Alors, il est venu avec Georges Lucas, qui est le parrain de Sofia. Alors, ils sont tous venus là. Et moi, mes 80 ans, c'était un dîner de stars. Il y avait des stars partout, quoi. Alors après, c'était vraiment sympa parce que ça a été fait un peu. Je m'en suis douté que 2-3 jours avant, quand j'ai vu qu'on me cherchait des prises de 400 volts, 500 volts pour brancher toute la musique. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se passe quelque chose. Donc voilà, donc ça c'était bien. Et donc mes relations avec Coppola sont excellentes, avec ma belle-fille sont excellentes. J'ai deux petites filles, Romy et Cosima. Pour l'anecdote, Romy vient d'être retenue comme une des stars de la bande d'une nouvelle série américaine qui démarre, donc ça va être, elle 17 ans, elle rentre dans le cinéma là, de plein pied. Donc je pense que Romy fera une grande actrice parce qu'elles savent déjà chanter, danser. Sofia les a élevées un peu comme ça. Ils seront là au mois de juillet, d'ailleurs, comme tous les ans. Je réunis toute la famille ici. Il y a obligation de passer 15 jours. Les 15 jours sont devenus 12 jours, mais maintenant, cette année, on reprend 14 jours. Hein, pas, on ne discute plus maintenant. Et puis voilà, la vie est plutôt belle. Mais c'est vrai que les grands sujets qui me préoccupent aujourd'hui sont des sujets angoissants. La crise climatique est un sujet angoissant parce que ce matin, par exemple, quand j'étais avec mon distributeur norvégien, il plante en Norvège pour voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que planter en Norvège, c'est bien, mais ça, bon, ça va durer 10 ans. Mais la Norvège aussi la Norvège, le climat de la Norvège est très, très atteint. Le climat de l'Antarctique et de l'Arctique, les neiges fondent. Donc, on s'aperçoit que ce problème-là, il est plus important et il va surtout nous prendre à la gorge. Quand vous avez d'un seul coup un chaud ressenti à Rio à 62 degrés et que vous ne pouvez pas rester plus d'une heure au soleil, vous brûlez, là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et là, ça devient compliqué. Et alors, c'est sûr qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est triste, c'est pas bon, mais c'est pas non plus en niant ce problème qu'on arrivera à le résoudre le plus intelligemment. Par exemple, je sais, mon cardiologue, là, Draguignan, Dr Schex, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, il a créé une association de tous les médecins de santé pour arriver à faire un tas de choses sur la santé qui fait qu'on va prévoir et qu'on va diminuer le coût de santé. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir un médecin toutes les 5 minutes, comme c'est aujourd'hui. « Ah, j'ai malade, j'ai mouillé le docteur. » Bon, ce n'est pas possible. D'abord, les gens, on se rend compte aussi, c'est comme le manque de connaissances sur la durée de vie. On dit aujourd'hui, le pouvoir d'achat a baissé. C'est vrai. Mais pourquoi il a baissé? On ne compte jamais dans le pouvoir d'achat le téléphone, les téléphones, la fibre optique, toutes les plateformes sur lesquelles on cotise. Là, j'ai vu tout à l'heure, je suis soutiré de 2,99 €. Ah bon, c'est quoi ça? Je regarde, je n'avais pas fait attention. Tous les mois, Apple me prend 2,99 €. Et je cherche pourquoi, je ne sais pas. Mais tous les mois, ils m'enlèvent 2,99 €. Ici, ils font ça sur 1 milliard de personnes. Mais c'est 2,99 € qui sont enlevés tous les mois. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, les besoins de la vie sont plus les mêmes qu'avant. Alors, résultat, c'est sûr que on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à réguler. Donc, moi, je me réfugie dans l'univers de dire le vin, il y a de l'alcool, c'est pas bon pour la santé, mais c'est un bon médicament pour sociabiliser les gens. Je plaisante souvent quand je discute avec des amis musulmans, en disant, mais si vous, les musulmans, vous buviez un peu de vin de temps en temps, vous vous rendez compte, vous éclusez tous nos stocks, donc les vins seront meilleurs, et grâce à vous, et en plus, vous communiquerez plus facilement. Ces excès de violence, buvez un coup, vous verrez, ça va passer. Ça finit par marcher. Tout est comme ça, tout est pris. J'essaie de prendre avec un peu d'humour les sujets qui sont dramatiques. C'est la seule façon de les aborder tout doucement. Même la mort, la fin de vie peut être passionnante parce qu'on a plus de temps, on s'occupe des gens. Moi, je sais que maintenant, j'ai un plaisir que je n'avais pas avant. C'est quand je suis à Paris, je m'installe sur une terrasse, j'achète le journal, je prends un café, un whisky, n'importe quoi, et puis je regarde les gens. C'est un spectacle, c'est génial. Avant, je n'avais pas fait ça. Donc aussi, on arrive à découvrir. On dit toujours, vieillir, c'est une catastrophe, ça c'est sûr, parce qu'on se dégrade de partout. Mais en même temps, on arrive à trouver des éléments qui peuvent rendre la vieillesse plus agréable à vivre, plus utile aussi pour faire partager l'expérience avec des plus jeunes. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Malheureusement, je cherche la recette miracle, et la recette miracle, il n'y en a pas. Donc la recette miracle, la seule, c'est le travail. On se fixe un objectif et on travaille, et puis à un moment donné, tiens, ça marche. Donc voilà, et c'est pas compliqué. Hein.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.